l'avez vu, vous l'avez lu. Maintenant, entendez-le. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer, le guide de l'auto. Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bienvenue au guide de l'auto édition du 27 novembre 2021. Frédéric, bonjour.
Salut.
Bon, alors Germain est parti en vacances, alors c'est toi qui le remplace cette semaine.
Ben oui, quel honneur.
Bon, et on commence avec quelques actualités. Le temps de dire d'abord qu'en deuxième partie d'émission, on va recevoir André Gamelin de Pièces d'auto Super, mais qui va nous parler d'un projet qu'il a mis en place pour former des ateliers mécaniques indépendants et les aider à prendre le virage électrique parce qu'il y a un gros gap qui se crée actuellement entre les concessionnaires de véhicules neufs qui s'accaparent tout ce marché-là et les ateliers indépendants qui n'ont pas la formation, l'outillage, l'expertise pour pouvoir entretenir des véhicules électriques.
Exact. Donc, on en parle tantôt avec André Gamelin, hein, mais on va commencer, Antoine, l'émission avec les actualités. Puis, je veux faire avec toi un petit retour sur le salon de l'auto de Los Angeles parce que quand tu as enregistré l'émission avec Germain la semaine dernière, tu t'apprêtais à quitter Montréal pour Los Angeles. Moi, je suis vraiment curieux de t'entendre. Comment ça s'est passé, le salon de l'auto, le premier gros salon américain depuis le début de la COVID?
Bien, c'est pas compliqué. C'est un demi-salon parce que la moitié des constructeurs n'étaient pas présents. Honda, Acura, Mazda, il y a plein. BMW, Mercedes, Audi n'étaient pas là. Il y avait tout ce qui s'appelle véhicule exotique. Là. Nommelais, là. Ouais. Ferrari, Rolls-Royce.
Ça, c'était déjà le cas.
À l'exception
avant la COVID,
de Porsche
là.
Qui était présent puis qui a présenté justement une voiture là-bas. Je veux dire, Los Angeles, c'est un salon. En fait, moi, j'étais allé souvent au salon de l'auto de Los Angeles. Je connaissais l'environnement par cœur. Et évidemment, je suis arrivé là-bas et j'ai constaté que l'approche est complètement différente. Et à plusieurs reprises cette année, j'ai parlé d'une année pivot en automobile. Puis ce salon-là me l'a prouvé.
Pivot alors, en matière d'électrification?
Bien, pas juste ça. Année pivot en matière de OK. La clientèle délaisse massivement la voiture, se tourne vers les VUS, qui plus est les VUS hybrides, hybrides branchables et ultimement électriques. On voit tout ce qui s'appelle petite voiture disparaître, le prix des véhicules explose. La situation fait qu'il y a pénurie de véhicules chez tous les constructeurs. Bref, c'est une année de grands changements et c'est une année où on constate l'arrivée de plusieurs nouveaux joueurs en automobile, ce qui va probablement causer la disparition d'autres joueurs. Alors moi, je serais pas.
Je sais qu'il y avait VinFast, une compagnie vietnamienne qui sort un peu de nulle part. Rivian, Fisker, il y en a beaucoup. Là.
VinFast, Rivian, Fisker, Lucid, Imperium Motors, ce sont 5 nouveaux constructeurs automobiles qui vont arriver cette année, ben en fait en 2022, avec des véhicules électriques vendus chez nous au Canada.
Fait eux, à Los Angeles, ils ont pris la place sur le plancher qui a été laissée par les constructeurs qui ont plus le goût d'être là.
Et ça, c'est à part d'autres constructeurs à plus petite échelle qui ont présenté notamment des véhicules commerciaux électriques. Des constructeurs comme Electra Mechanica qui ont présenté des véhicules qui sont plus destinés au marché californien.
Un constructeur canadien, ça.
Oui, en fait, qui vient de la Colombie-Britannique. Donc, tu sais, il y avait beaucoup de ça au salon de Los Angeles. Puis, c'est fascinant parce que ces 5 constructeurs-là, notamment Fisker, imagine-toi, là, T'as Henry Fisker lui-même qui a designé les véhicules, qui était le père de la Fisker Karma, qui est devenue la Karma Revero. Bien, lui a lancé sa propre entreprise, fabrique des véhicules électriques. Si ma mémoire est bonne, c'est dans le Wisconsin. Peut-être que je me trompe.
Et là, il arrive avec le Fisker Ocean, qui est un véhicule utilitaire,
écoute,
format compact.
Beau design, beaucoup d'innovations techniques. Ouais. Imagine-toi un véhicule où toutes les vitres peuvent se baisser. T'as jamais vu ça. Le toit du véhicule est un panneau solaire qui permet de recharger les batteries qui font mouvoir le véhicule. Il n'y a personne d'autre qui a fait ça jusqu'à maintenant. Il y a beaucoup d'innovations intéressantes. Puis, ces 5 constructeurs-là ont pris le plancher, se sont affichés pendant que tu avais des GM, des Chrysler.
GM, ça n'a pas fait de bruit, mais tu sais, il y avait la Corvette Z06.
Personne n'en a parlé.
C'est fou, hein?
Complètement sous le radar.
Nissan, j'ai vu des photos de la Z dans un coin. Personne
n'en
a parlé.
Nissan avait aussi le Ariya, qui est le prochain VUS électrique, mais on n'a pas fait de présentation au salon. Chrysler, ben on avait le nouveau Grand Cherokee 5 passagers que je conduirai la semaine prochaine, qui était là-bas, mais pas de présentation officielle. Silence radio pour la présentation. Ford, évidemment, ben on a amené beaucoup de véhicules véhicules qui étaient présentés au SEMA Show électriques, notamment un Ford F100 de 1978 qui avait été modifié pour ça.
Il y avait les constructeurs coréens quand
le
même.
Le Ford Lightning était là, mais tu sais, aucune présentation. En fait, les présentations des constructeurs mainstream, là, les constructeurs qu'on connaît...
Il y en avait trois.
Il y en a eu trois. Alors, Hyundai et Kia, qui ont respectivement présenté un concept de VUS intermédiaire. Bon. Alors, Kia EV9 et le Hyundai 7, des véhicules qui sont à l'étape de concept en ce moment, mais qui, dans 2-3 ans, deviendront des véhicules de production, c'est bien évident.
Gros véhicules électriques.
Bon, qui vont venir remplacer des Palisades, des Telluride, mais avec de la motorisation électrique. Fait que là, on a lâché notre fou, puis on est allé, on a joué d'audace avec le design, puis on a présenté des gadgets un peu intéressants, mais... La vérité, c'est que c'était pour faire parler, aussi pour placer ces véhicules-là à côté des IONIQ 5, des Kia EV6, qui avaient déjà été présentés. Fait que c'était une façon de ramener ça. Parallèlement, Kia a aussi présenté son Sportage 2023, mais c'est pas ça qui a retenu l'attention.
Avec une motorisation hybride rechargeable.
C'est ça. Puis sinon, ben, c'est Subaru qui a présenté le Solterra, mais qui est un clone du Toyota BZ4X.
C'est drôle, ça. Les deux véhicules étaient là, ensemble. Ouais. Subaru a fait une grosse présentation. Puis Toyota avait amené le véhicule.
Mais pas de présentation parce qu'elle avait été présentée sur le web la semaine d'avant.
Ouais.
Puis la distinction de ces deux véhicules-là, c'est pas compliqué. Là. La grille, les lumières, ça s'arrête là. À la différence que Toyota va offrir une version à roue motrice avant avec un moteur de 150 kW uniquement sur l'essieu avant. Mm-hmm. Et en option chez Toyota, mais de série chez Subaru, ben, on aura le rouage intégral.
C'est logique.
Un moteur de 80 kW sur chaque essieu.
On connaît Subaru, ils sont connus. Ben, voilà. Pour leur rouage intégral, c'est logique comme stratégie.
Puis c'est un véhicule qu'on a développé conjointement à tous les niveaux. Donc Toyota et Subaru ont travaillé beaucoup plus en étroite collaboration sur ce véhicule-là qu'avec la BRZ ou la 86, où là, ben chacun avait leur mandat. Mais ce qui est drôle, c'est que bien qu'on ait développé ce véhicule-là en parallèle, on est vraiment en vase clos en ce qui concerne la mise en marché, la présentation, le prix.
En développement, on est une équipe, mais à partir de là, ben, on devient des compétiteurs.
Voilà.
Vous faites
complètement.
Vos affaires, on fait les noms. Moi, je trouve ça intéressant.
Puis regarde bien la différence, c'est que Toyota va vendre son véhicule uniquement au Québec et en Colombie-Britannique pour l'année modèle 2023. Le véhicule qui va arriver à la fin de l'été 2022. Et du côté de chez Subaru, on le vend dans tous les concessionnaires à travers le pays. Alors, déjà là, t'as une stratégie qui est différente. Deuxièmement, Toyota va avoir une version à roue motrice avant que Subaru n'a pas. Donc, on risque d'avoir un véhicule moins cher. Est-ce que...
Éligible aux crédits gouvernementaux,
ben,
peut-être?
Il va falloir que Subaru propose une version de base à 44 999 pour être éligible. On pourra pas arriver avec un véhicule qui ne l'est pas alors que Toyota l'est, c'est sûr. Mais j'ai hâte de voir la proportion. T'sais, est-ce que parce que Toyota concentre ses efforts dans deux provinces, on va avoir plus de volume chez nous que Subaru? À mon avis, c'est clair. Mais on va voir la stratégie. Mais ce que je retiens du salon de l'auto de Los Angeles, pour revenir là-dessus, c'est que, oui, c'est une année pivot. Il y a des constructeurs qui ont regardé aller la parade pendant que d'autres ont pris d'assaut le marché. C'est un salon de véhicules électriques. Là, c'est pas compliqué.
Mais ça va être ça de plus en plus. Là.
Mais c'est ce qu'on a présenté. Puis je pense qu'à partir de maintenant... Un salon d'automobile, ça va peut-être être incomplet par rapport à ce qu'on a connu parce qu'il y a des constructeurs qui ont réalisé qu'ils ont d'autres vitrines pour faire promouvoir leurs produits, pour promouvoir leurs produits.
Reste à voir s'ils vont changer d'idée ou si ça va devenir la norme. On a le salon de l'auto de Montréal qui s'en vient en janvier, ça va être la même chose.
Ça va être un salon de véhicules électriques, le salon de Montréal. C'est évident. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? C'est que tu as un paquet de nouveaux constructeurs qui arrivent sur le marché. Regarde bien, là. En 99-2000, tu as Kia et Daewoo qui sont arrivés sur le marché, comme nouveaux constructeurs. Après ça, c'est Tesla qui est arrivé sur le marché. Daewoo est disparu quelques années après. Tesla est arrivé sur le marché en 2012, t'as pas d'autres constructeurs vraiment qui sont débarqués pendant 10 ans.
Il y a des marques qui ont été créées.
Il y a des marques qui ont été créées. Sion.
Sion, c'est vrai.
Polestar plus récemment, Genesis aussi.
Ouais.
Mais ça, c'est des divisions de constructeurs déjà existants. Et là, uniquement cette année, t'as 5 nouveaux constructeurs, voire même 6 nouveaux constructeurs qui arrivent avec des véhicules 100% électriques. On n'a pas d'historique de fabrication. Boum, on s'implante là. Mais ça veut dire une chose. Je veux dire, on vient s'accaparer une pointe de tarte dans le marché automobile, mais il y a des constructeurs et des divisions qui ont tellement déjà de misère qu'ils passeront pas à travers.
C'est un marché déjà pas pire saturé, le marché de l'automobile. Là. Fait que j'ai hâte de voir, c'est ça. Il va y avoir des laissés pour compte là, dans tout
ben,
ça, c'est certain.
Moi, je m'attends à ce qu'il y ait des marques comme Jaguar, comme Infiniti, qui passent pas à travers.
C'est possible.
Alpha Romeo, Fiat, si on réussit pas à... Je veux dire, on vend pas de véhicules puis on s'adapte pas au nouveau marché. Les Coréens sont très proactifs à ce niveau-là. GM, Ford, ça s'en vient. Chrysler, on annonce des affaires qui s'en viennent. Là. Ça permet peut-être de faire une transition sur la prochaine actualité rapide qu'on va faire cette semaine, c'est-à-dire l'annonce de la disparition du moteur L4 en fin d'année 2023, ce qui pourrait aussi...
C'est une nouvelle qu'on attendait. Ben, c'était écrit dans le ciel. Ils ont juste mis une date à la nouvelle.
Est-ce que ça veut dire aussi que la Charger Challenger 300 va officiellement disparaître après
ça? On attend pour 2024 un nouveau véhicule électrique sport créé par Stellantis. Ça viendrait coïncider avec la fin du moteur L4. J'ai bien hâte de voir ça. Ça, c'est une petite nouvelle un peu plus légère à laquelle on s'attendait,
mais en même temps, tu sais, pour les maniaques de Challenger
ça fait réagir.
C'est
là,
ça. C'est
exactement. Je l'ai vu.
Puis les maniaques de Challenger, ils n'en voudront pas d'un véhicule électrique. On est à l'opposé complètement.
Ouais, il va toujours avoir des irréductibles, mais il y a quand même un changement de mentalité.
On s'appelait ça le Challenge E?
Challenge, peut-être.
Enfin, bref.
Puis Antoine, je veux qu'on jase aussi, avant de passer aux essais routiers de la semaine, je veux qu'on jase des véhicules de l'année qui ont été annoncés cette semaine par l'équipe du Guide de l'auto dont toi et moi faisons partie. Donc, en rafale, voiture de l'année, Volkswagen, Golf GTI et Golf R, on les a mis ensemble. Nouveau véhicule utilitaire de l'année, Genesis GV70. Et nouveau camion de l'année, il y avait beaucoup de nouveautés dans ce segment-là cette année. C'est le Ford Maverick qui a retenu l'attention de notre équipe.
Bon, faut expliquer. On va commencer par les pick-up, là, histoire de clarifier ça.
Ouais.
Camionnette, c'est pas compliqué. Il y avait beaucoup de nouveaux joueurs, tu l'as dit, mais évidemment, il y a des véhicules qui n'ont pas été retenus ou évalués. Le Hummer H2, parce que... H2, excuse-moi.
Le passé,
c'est pas pire, ça, hein? Le GMC Hummer EV, qui n'a pas été retenu parce que pour le marché canadien, il ne sera pas vendu en 2022 chez nous. Ça va être un modèle 2023. Ford F-150 Lightning, personne n'a
même
touché
chose
à ça encore. Alors, ça va
arriver
un peu plus tard.
Il y avait le Rivian R1T que toi, tu as eu l'occasion
de conduire. On avait le Rivian, on avait le Frontier, on avait le Toyota Tundra. On avait beaucoup de nouveaux joueurs. Hyundai Santa Cruz. Mais
qui
c'est
a été considéré aussi, le Santa Cruz. Ouais. Dans cette nouvelle... Ça nous amène au Maverick. Là, cette nouvelle catégorie, si je peux dire, de camionnette compacte.
En fait, c'est parce que Hyundai est arrivé avec une formule intéressante d'un véhicule, mais cher, et avec une mécanique qui, à mon avis, n'est pas appropriée.
Mm-hmm.
Puis la vérité, c'est que Ford a, à mon avis, fait un coup de maître en faisant du Maverick son véhicule d'entrée de gamme.
Absolument.
C'est le véhicule le moins cher qu'on puisse se procurer chez Ford, et c'est une camionnette.
C'est quoi, 26 000 $ au Canada?
Un petit peu moins, 28 000 avec le transport.
Mais c'est quand même incroyable.
C'est aussi une
camionnette. Avec un moteur hybride de série.
Donc, c'est un véhicule qui réinvente une catégorie et qui va certainement inspirer d'autres constructeurs à emboîter le pas. Parce que je suis persuadé du succès de ce produit-là. Surtout pour la version hybride chez nous. Écoute, à 6 litres, 6 litres et demi au 100 pour une petite camionnette polyvalente comme ça.
Puis le timing est bon, là, avec le litre d'essence à 1,55.
C'est évident. Alors, tu sais, oui, c'est sûr qu'on peut être impressionné par un F-150 Lightning, par un Hummer ou même par le Rivian, mais ce sont des véhicules beaucoup plus chers. Évidemment, on ne les a pas essayés pour la peine. Le Rivian, j'ai pu le conduire. J'ai conduit un véhicule de pré-production. Beaucoup de nouvelles technologies, beaucoup d'innovations, mais j'ai des réserves sur la qualité de fabrication
peu.
Puis, quand sera-t-il du véhicule qui va être vendu chez nous l'année prochaine? Tu sais, je veux dire.
Tandis que le Maverick, bien, il est dans
le. Il y a déjà des concessionnaires, on le connaît.
pensé pour les consommateurs, ouais, la classe moyenne.
Seule déception, c'est qu'il n'y a pas de rouage intégral avec l'hybride, puis ça, ça serait bien le fun qu'on réussisse à corriger ça.
En effet.
Mais c'est vraiment un véhicule qui a retenu notre attention dans ce marché-là, puis qui vient réinventer le genre, qui amène une nouvelle solution à des acheteurs de camionnettes.
Ouais.
Maintenant, les VUS, ça aussi, ça a été pas évident.
Oui, parce qu'il y avait trois modèles qui ont eu quand même pas mal de notes de la part de notre équipe. Le gagnant, je l'ai dit tantôt, le Genesis GV70, qui est franchement un véhicule qui nous a épaté toute la gang, qui mérite, je pense, en fait, qui mérite ce titre-là à 100%. Mais deux autres véhicules qu'on va regarder avec intérêt qui ont fini deuxième et troisième, c'est le Hyundai Ioniq 5. On l'a classé comme VUS, là, c'est assez discutable.
J'ai-tu de la misère, c'est sa ligne, pas
le,
à peu près.
Le Toyota Corolla Cross. Oui, c'est sa ligne, le Ioniq 5. C'est présenté par un VUS, par le constructeur. Après ça, c'est quoi la différence entre ça puis un Volkswagen ID4? C'est deux véhicules électriques qui offrent le rouage intégral en option, qui offrent sensiblement les mêmes dimensions.
Enfin, on aurait pu aussi placer l'Ioniq 5 chez les voitures, puis je t'avoue que c'est bon.
C'est vraiment sa ligne.
C'est très difficile, l'Ioniq 5, parce qu'évidemment, Gabriel et moi sommes les seuls qui l'avons conduit. Puis, on va voir ce que ça va donner au niveau stratégie. Le véhicule va arriver en début d'année prochaine. C'est très, très, très convaincant. Mais le Genesis GV70 est arrivé dans un marché hyper convoité où tout le monde a un véhicule à vendre. C'est pas compliqué,
là. On parle des VUS de luxe compacts comme le Audi Q5.
Nommez-les, là, tout le monde en a un, c'est pas dur. Cadillac, Lincoln, les Japonais, tout le monde en a un. Alfa Romeo, Stelvio, tout le monde a un produit dans ce segment-là. Genesis est une nouvelle marque, arrive avec un véhicule qui a un design foudroyant avec des mécaniques super convaincantes. Le niveau de finition là-dedans, c'est du jamais
c'est
vu.
Épatant. Le moteur aussi 3.5, là, ça va bien ce véhicule-là. C'est tout le monde qui l'a conduit dans notre équipe a adoré.
Et ajoute à ça le fait que là, on arrive avec une version électrique en plus.
C'était un
incontournable, on n'avait pas le choix.
Ouais.
Puis pour les voitures, écoute, il n'y avait pas grand-chose, pour être honnête.
C'est un peu comme l'année passée. C'est juste que les voitures sont de moins en moins nombreuses sur le marché. Il y a de moins en moins de dévoilements. Mais il y avait quand même des belles nouveautés intéressantes. Puis celle qui a vraiment fait triper l'équipe, je pense que ça, c'est un choix de passion plus que de raison. C'est le duo Volkswagen Golf GTI, Golf R de nouvelle génération, les fameuses MK8.
Cette voiture-là, en fait, permet de conserver du plaisir au volant dans une compacte sportive.
Je pensais que tu allais dire dans une Volkswagen.
Et aussi, parce que c'est pas mal la seule qui va continuer de nous offrir ça. Mais je veux dire, on a un prix qui est compétitif à partir de 33 000 $. On a un niveau de performance qui est jamais vu dans une GTI, dans une Golf R.
Ouais.
Une qualité de fabrication qui est intéressante. C'est fidèle à la philosophie de la voiture. Alors que, tu sais, les autres compacts sportifs dans le marché, ça se dissipe. Honda ne nous convainc certainement pas avec la nouvelle Civic SI.
La Honda Civic, la nouvelle génération de la Civic qui est arrivée pour 2022, a terminé deuxième dans notre classement.
Je me permets de te dire que si on avait joué d'audace davantage, si on avait innové plus que ce qu'on l'a fait, probablement qu'elle aurait gagné. L'affaire, c'est qu'Honda a amélioré sa formule, a gardé les mêmes mécaniques, a aucune version hybride, on a éliminé l'Insight en plus. Tu sais, je veux dire, t'es en 2022, t'arrives avec une nouvelle compacte qui domine le marché depuis plus de 20 ans, t'as Hyundai et Toyota qui ont des voitures hybrides en compétition, l'Elantra et la Corolla. Honda, renouvelle sa Civic, même motorisation, on élimine des versions de base.
On est très conservateur.
On est très conservateur. La SI est moins performante, en fait, de 5 chevaux par rapport à l'ancienne.
Ouais.
Probablement pour donner 5 chevaux de plus à l'horrible Integra qui va arriver dans quelques mois. Tu comprends-tu?
Ouais.
On a une voiture qui est convaincante. Je vais recommander à n'importe qui d'acheter une Honda Civic demain matin, mais je peux pas nommer cette voiture-là de l'année parce qu'on est trop conservateur.
Puis le deuxième finaliste aux côtés de la Civic, ça a été la Chevrolet Bolt EV, qui, je pense, aurait eu des chances de l'emporter si ça n'avait pas été de tous les problèmes que GM connaît en ce moment. On sait que la ligne de fabrication de ces véhicules-là est encore arrêtée au moment où on se parle. C'est sûr que ça met
Je me permets de te dire que là, il y a aussi la ligne avec l'Ioniq 5 dont on faisait mention tantôt, puis pour avoir conduit l'Ioniq 5, on est ailleurs complètement.
Mm-hmm.
Fait que la Bolt EV, oui, parce qu'elle se catégorise comme
une
voiture.
C'est le prix qui est intéressant.
Ouais, OK. Mais je veux dire, l'Ioniq, ça va être un produit pour les amateurs de voitures électriques ou pour tous ceux qui veulent prendre ce virage-là, c'est un véhicule super impressionnant. Alors, c'est des choix qui sont pas évidents. Non. On s'est aussi interrogé sur la question de est-ce qu'on devrait faire une catégorie de véhicules électriques, puis on a choisi de pas le faire parce que ça va devenir de plus en plus commun. Exact. Et si un jour, c'est une voiture électrique qui passe en avant, ça sera ça. Mais pour le moment...
Ça a été le cas l'année passée, la voiture de l'année, c'était la Polestar 2. Ça dépend des années. Année, ça a donné comme ça.
Mais tu vois, Polestar, c'est intéressant parce que le produit, on est encore convaincu du produit, mais on est drôlement moins convaincu de la stratégie de mise en marché. Mm-hmm. T'en vois pas des Polestar sur la route parce qu'on dirait que on se perd dans la façon de vendre des véhicules. Va vraiment falloir travailler fort chez Polestar pour changer son fusil d'épaule puis arriver avec une stratégie de marketing plus intéressante que ça.